bons yeux, tu sais.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. Et c'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Bon voilà, Damien vous a tout dit, hein. Tout dit sur Radio Entre-deux-Mers. Bravo. Non mais bonjour Damien, bonjour à nos chers auditeurs aussi, ceux qui ont la gentillesse de nous inviter chez eux, là, maintenant, pour le cinéma. Parce qu'on va parler de cinéma, t'es bien d'accord?
C'est ça, c'est l'heure de la conversation du cinéma. Alors malheureusement, il n'y a pas de film qui sorte en ce moment car les cinémas sont fermés pour cause de confinement. Et du coup, en cette période, nous vous proposons des films à voir ou à revoir, des films qui sont sortis, des films qui font partie du patrimoine cinématographique. Et donc, toutes les semaines, tu fais la sélection de 7 films, un film à regarder par jour. Et donc, ça va de vieux films à des films plus récents. Et aujourd'hui, nous allons d'ailleurs commencer avec un film de 2007 pour débuter. Un film qui s'appelle Idiocratie et qui est dans l'air du temps.
Voilà, Idiocratie, oui, qui est sorti en avril 2000. C'est un film américain. C'est une comédie, c'est de la science-fiction et c'est réalisé par Mike Judge. Alors Mike Judge, juste pour le situer comme ça, pour ceux qui connaissent, hein, il a participé par exemple à la série Silicon Valley, qui est une comédie, qui est une série qui a duré, qui s'est étendue entre 2014 et 2019, qui a eu un succès phénoménal aux États-Unis, Silicon Valley. Et voilà, donc il y a participé, il n'a pas tout réalisé, mais il y a participé largement. C'était juste pour le situer. Alors, Idiocratie, oui, c'est un titre un petit peu bizarre, Idiocratie. Mais c'est quoi? Ben, il y a le mot idiot.
Allô, Anne, en t'entend très mal, Anne.
Ah.
Alors, du fait du confinement, on fait les émissions à distance. Du coup, il se peut que tu sois dans un endroit où ça capte pas très bien.
Attends, est-ce que là, je suis mieux positionnée, peut-être, non?
Là, on t'entend.
Bon, je vais essayer de parler plus fort.
Allez, on va essayer ça.
Bon.
Donc tu nous disais, Idiocratie, c'est...
Ben oui, je suis au téléphone, hein, mes chéris, donc c'est beaucoup moins pratique avec le micro. Mais on fait ce qu'on peut, parce que ce qu'on veut, c'est vous faire plaisir surtout. Voilà, ne pas vous abandonner, les amateurs de cinéma, en tout cas pour cette émission-là. Donc c'est l'histoire de Joey Bowers, qui est un Américain moyen par excellence et qui est choisi par le Pentagone comme cobaye d'un programme d'hibernation qui va mal tourner. Il se réveille 500 ans plus tard et découvre que le niveau intellectuel de l'espèce humaine a radicalement baissé et qu'il est l'homme le plus brillant de la planète. Voilà pourquoi, de toute façon, on l'a dit, il reste une comédie. Hein. Comédie, c'est de la science-fiction, évidemment, mais c'est une comédie. Donc, c'est quand même c'est un petit régal, quand même, quoi. Alors, dans les acteurs, on a Luke Wilson. Alors, lui, même si vous ne connaissez pas son nom, quand vous le voyez, vous le connaissez. Voilà, vous connaissez cet acteur, vous l'avez déjà vu, si vous êtes un habitué du cinéma, ou des séries d'ailleurs, vous l'avez déjà vu. Ensuite, on a Dax Shepard et on a Maya Rudolph dans les rôles principaux. Ça dure 1h24. Et alors vraiment, c'est à voir, parce que bon, c'est sûr que c'est pas c'est une comédie, mais le côté comédie n'empêche que ça laisse rêveur quand même. Hein. Quand il arrive comme ça et que le niveau intellectuel est tellement bas qu'il devient un homme génial, l'homme le plus intelligent de la planète, alors qu'on a bien dit au début que c'était un Américain moyen. Hein. Il n'a rien d'exceptionnel, ce monsieur. Il est voilà, moyen par excellence même. Hein. C'est titré comme ça. Donc, il n'y avait aucune raison qu'un jour, il soit l'homme le plus brillant de la planète. Ça laisse un peu rêveur. Pourvu que ça ne nous arrive pas. Hein, Damien, qu'est-ce que tu en penses?
On est bien d'accord. Déjà, rester 500 ans là, endormi, ça ne m'intéresse pas non plus.
Mais j'espère que le niveau intellectuel de la planète ne va pas baisser suffisamment pour qu'un citoyen de n'importe quel pays de moyen devienne l'homme le plus brillant de la planète. Ce ne serait pas bon signe du tout. Voilà. Donc il est à voir, oui, oui, il est à voir de toute façon. Hein. Alors ensuite, ah ben là on change de registre. On part en octobre 1937.
Alors là on remonte dans le temps pour un film culte de Marcel Carné.
Oui.
Qui s'appelle Drôle de drame.
Voilà. Alors là, c'est vraiment, bah, c'est un film. Je pense que presque tout le monde a vu ce film au moins une fois. D'abord parce qu'il est repassé souvent, d'abord parce qu'il est sorti en DVD depuis très longtemps, donc on pouvait l'acquérir facilement, à un prix tout à fait modique, et c'est un petit chef-d'œuvre, de toute façon. Donc Marcel Carné, tu as dit Marcel Carné, ah, moi il fait partie de mes réalisateurs chouchou préférés. Marcel Carné, c'est un homme extraordinaire, il n'a fait quasiment des petits chefs-d'œuvre. Mais vraiment, quoi. Ah oui, Marcel Carné, bah, par exemple, on lui doit, alors en 1958, il a réalisé Les Tricheurs. Alors c'est un film qui est connu quand même, hein. Beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de gens le connaissent. Avec Claude Giraud, il y avait Pascal Petit, la splendide Pascal Petit. Jacques Charrier, dis-moi, est-ce que tu te souviens de qui était l'époux? Il était l'époux de qui, Jacques Charrier? Est-ce que ça te dit quelque chose?
Non, pas du tout.
D'une célèbre, extrêmement célèbre actrice, célèbre mondialement d'ailleurs, qui a maintenant un certain âge, mais qui a gardé beaucoup de charme et qui s'occupe beaucoup des animaux.
Brigitte Bardot?
Voilà. Et Jacques Charrier a été l'époux de Brigitte Bardot. Et c'est avec lui d'ailleurs qu'elle a eu un enfant, le seul enfant qu'elle ait jamais eu d'ailleurs, un garçon. Voilà. C'est avec Jacques Charrier qu'elle a eu... qu'elle a vécu quelques temps. Eh oui, ils se sont mariés, oui. Et puis, voilà, donc c'est un... Les Tricheurs, ça avait déjà été un prix, ça avait déjà été un film très primé, enfin bon, qui a fait beaucoup de bruit. Et en 53, c'est-à-dire quelques années avant, il avait également réalisé, je donne des titres connus, hein, Thérèse Raquin. Thérèse Raquin, c'était avec... Ah, mes chéris, mes petites chéries, Ravalon, le beau Ravalon. Ah oh là là, presque aussi beau que Notre-Damien. Ah, oh, Ravalon, eh ben oui. Puis il y avait Jacques Duby, il y avait l'actrice aussi Sylvie, qui joue beaucoup d'ailleurs avec son regard dans ce film. Elle a un regard assez fascinant, hein, l'actrice Sylvie, là, dans ce film, Thérèse Raquin. Voilà, c'était pour donner quand même une idée. Ah oui, il y a Le Jour se lève, bien sûr, en 1930. Avec Arletty, Jean Gabin, il y a Hôtel du Nord. Qui ne connaît pas le film Hôtel du Nord? 1938, avec Arletty et Jouvet, bien sûr. Alors, hein, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Ça, c'est la réplique du film Hôtel du Nord. On lui doit, alors là, le film extraordinaire. Moi, je me le repasse, j'ai la chance d'avoir le DVD. Je me le repasse quasiment sans arrêt, quoi. Je veux dire, dès que je peux, Les Enfants du Paradis, il a réalisé en 1945 avec Maria Cazares.
Alors, avec qui Les Enfants du Paradis? Parce qu'on n'a pas entendu.
Pardon?
Les Enfants du Paradis, on n'a pas entendu avec qui c'était.
Ah, Les Enfants du Paradis. Alors, Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Maria Cazares. Dans les rôles principaux, ouais. Il est sorti en 1945. Et on a aussi hein, qui est sorti en 1930 avec Gabin et Morgan. Et on l'a d'ailleurs quand tu lances le générique de l'émission, ça se termine par t'as de beaux yeux, tu sais. Et elle lui dit, elle répond, embrasse. C'est dans le Quai des Brumes.
D'accord. Donc voilà pour ce film Drôle de drame.
Quelle des brumes, ma foi. Alors, Marcel Carné, malheureusement, il nous a quittés évidemment, parce que il était né déjà il y a un petit moment, hein, puisqu'il a fait des films en 38, en 35. Il est décédé en 1996 à 90 ans. Voilà. Eh oui, des Marcel Carné, il nous en faudrait. Il nous en faudrait beaucoup, beaucoup. Alors, Drôle de drame. On revient à Drôle de drame, en fait. Alors, Drôle de drame, c'est un film français, bien sûr. Alors, on a, dans les rôles principaux, on a Louis Jouvet, on a Françoise Rosée, Michel Simon. Il y a Jean-Louis Barrault également, d'ailleurs. Ça se passe à Londres en 1900. Le très sérieux professeur de botanique Irvine Molineux n'est autre que Félix Chapelle, auteur de romans policiers. L'évêque de Bedford, cousin d'Irvine, n'apprécie guère ce genre de littérature et le déclare bien fort lors d'un souper où il est invité chez les Molineux. L'absence de Margaret, la femme de Molineux, à ce souper, va déclencher une série de quiproquos fort amusants. Bah oui, parce que l'évêque va croire à un moment donné qu'Irvine Molineux a tué son épouse. Il y a un quiproquo incroyable, hein. Et il y a aussi une scène extrêmement célèbre, là. Tu la connais peut-être, toi, Damien, les phrases extrêmement célèbres qu'il y a dans ce film. Vous avez dit bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Comme c'est étrange. À un moment donné, il y a cette phrase-là qui est extrêmement célèbre, qu'on sort du film à chaque fois, voilà. Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre. Voilà, tu connais ça, Damien, tu connaissais ça.
Oui, oui, je connais bien la phrase.
Bien sûr, hein. Mm-hmm. C'est une phrase extrêmement célèbre, sortie justement de ce film. Eh oui, magnifique, magnifique, qui dure 1h38. Belle comédie française. Eh oui, un régal. Ah, ensuite, alors là, on sort de France, là, on part aux États-Unis avec quel film, alors
Un film d'Orson Welles sorti en 1946.
Qui s'appelle
Citizen Kane.
Citizen Kane, ouais, juillet 46, ouais, qui dure 1h59, c'est d'Orson Welles, oui. Tout à fait. Alors Orson Welles, Orson Welles, c'était quand même une sorte de génie du cinéma. Voilà. Il a commencé très tôt, il a fait des films extraordinaires. Voilà, bon. Il est décédé assez tôt finalement. Il n'avait que 70 ans. Il est décédé 185, ouais, c'est ça. Ouais, 70 ans, il aurait pu faire encore tellement de films. On lui doit, par exemple, en 1947, La Dame de Shanghai, avec lui-même, Orson Welles, et la splendide Rita Hayworth, voilà, dans La Dame de Shanghai. On lui doit La Splendeur des Ambersons. Alors là, c'est pareil, c'est 1946, c'est merveilleux. On lui doit Othello aussi, en 1952. Il y a Falstaff aussi. Il a beaucoup réalisé sur des drames de Shakespeare. Ouais. Il devait apprécier beaucoup cet auteur, Orson Welles. Donc là, il y a Orson Welles, il y a Joseph Cotten, il y a Dorothy Comingore. Ah oui, Dorothy Comingore. Oui, quand on la voit, c'est pareil. On ne connaît pas bien son nom, mais on la reconnaît. On sait qu'on l'a vue déjà dans pas mal de films. Et donc c'est quoi Citizen Kane? Ben, ça parle du milliardaire Charles Foster Kane. À sa mort, c'est un grand magnat de la presse. Hein. Et à sa mort, Thompson, un reporter, enquête sur sa vie. Les contacts qu'il prend avec ses proches lui font découvrir un personnage gigantesque, mégalomane, égoïste et solitaire. Citizen Kane part de cet homme, qui a eu plein de nominations évidemment, qui parle de Charles Foster Kane. On a sorti du film, c'est à la fin d'ailleurs, au moment où il meurt. Quand il meurt, il dit un mot. Alors ils se sont... dans le film on voit d'ailleurs que le reporter se penche là-dessus et trouve la solution. Le dernier mot qu'il dit en mourant, c'est Rosebud. Alors tout le monde cherche Rosebud. C'est quoi Rosebud? Ben Rosebud, c'était le nom de son de son traîneau. Voilà, il avait un traîneau quand il était enfant, un traîneau pour aller sur la neige, qui s'appelait Rosebud. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est souvent sorti du film. Quand on parle de Rosebud, on sait qu'il s'agit de Citizen Kane. Absolument. Voilà, pareil, hein. Petite merveille, Citizen Kane. On le regarde, on ne s'ennuie pas du tout. Hein. Pendant 1h59, oh, ah là là, c'est 1h59 de plaisir, absolument. Il a été d'ailleurs restauré en 2002. La restaurer, il est déjà en DVD, bien entendu. Ouais. Citizen Kane. Ensuite.
On reste dans les années 40 avec un film qui s'appelle Ivan le Terrible.
Oui. Alors, Ivan le Terrible, c'est qui ce personnage? Parce que c'est un film historique. Hein. C'est un drame, c'est un biopic d'ailleurs. Qui parle d'Ivan le Terrible. Ivan le Terrible, c'est le cas de dire d'ailleurs que c'était un homme terrible, mais en même temps, il a fait des choses extraordinaires pour la Russie, Ivan le Terrible. Alors c'est un film qui est sorti. Alors Ivan le Terrible, en fait, c'est 1944. Hein. Je suis pas très sûre de la date parce que c'est pas évident, mais c'est probablement 1944. Hein. Et c'est un film de Sergei Mitchkalovitch Eisenstein. Alors Eisenstein, c'est pas facile à prononcer, hein, mais c'est le plus grand réalisateur de cinéma connu, quoi. C'est vraiment c'est un géant parmi les réalisateurs, Eisenstein. D'ailleurs, Einstein, on lui doit, entre autres, on lui doit quand même, je pense que certains connaissent probablement certains films d'Einstein, comme par exemple, sorti en 1938, Alexandre Nevsky, qui est un film extraordinaire. Alors pareil, vous pouvez le trouver en DVD, moi je l'ai trouvé pas cher du tout, un régal. Si on aime le Moyen-Âge en Russie, ça se passe au Moyen-Âge en fait, hein, et que Alexandre Nevsky a existé, hein, il a vraiment existé. C'est un film de guerre, mais c'est pas de la guerre ordinaire, hein, c'est les luttes à l'époque pour essayer de vaincre les Teutons, on les appelait les Teutons, qui envahissaient cette partie de la Russie et qui voulaient donc prendre le pouvoir. Voilà, Alexandre Nevsky qui se... il décide de passer, de, en fait c'est le peuple qui va le suivre, il décide de passer partout en Russie et le peuple le suivra et ils se battent ensuite contre les Teutons et ils gagnent d'ailleurs contre les Teutons, qui sont des gens extrêmement cruels, qui détruisent les villages, qui brûlent les enfants, qui tuent les femmes, enfin ce sont des gens terribles. Et ce film, si vous ne l'avez pas, mes chéris, franchement, Alexandre Nevsky, ça vaut le coup. Vraiment. Par exemple, quoi. Il a fait aussi, ah ben ça c'est connu, le film. Bon, qui dure 1h15 d'ailleurs, mais c'est magique. Ça se passe pendant le... En fait, c'était un épisode de la Révolution russe de 1905. Hein. Et donc, le film a été restauré en 2014, lui. Le cuitasse. Il y a une scène extrêmement célèbre dans le cuirassé Potemkin, mais vraiment très très... On voit, il y a un grand escalier, très très long, très très long, qui descend. Et là, il y a un landau, avec un bébé. Le landau, la maman est bousculée, le landau lui échappe et descend les marches. Paf, 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 il part sur les marches, le landau. Et il arrive, alors on se rassure, le bébé est intact à l'arrivée, il n'y a pas de souci. C'était des landaux de l'époque, hein, l'époque de 1900, là, des landaux avec des grandes roues. Et c'est une scène qui est très célèbre aussi, qu'on sort du cuirassé, pardon, Potemkin, qui est vraiment... voilà. Quand on voit cette scène, on sait de quel film il s'agit, en fait. Quand on aime le cinéma, hein, quand on a l'habitude, bien sûr, hein, dire bon voilà, là, gens qui aiment le cinéma, bien sûr, hein, Bernard voulait absolument qu'une émission, c'est pour que tous les amateurs, tous les gens qui aiment le cinéma puissent avoir quelques titres comme ça, de temps en temps, des films qui sortent. Là, il s'agit de films plus anciens, puisque les films qui sortent, comme disait Damien au début, ne peuvent pas être vus puisque les cinémas sont fermés. Mais là, il s'agit de films, la plupart sont des chefs-d'œuvre, hein, des petits chefs-d'œuvre. C'est le mot quand même, hein, très très grand film. Donc, Yvan le Terrible, alors ce monsieur-là, devant l'incapacité des régents, le jeune Yvan décide de se faire couronner. Mais sa tante, qui voudrait voir son fils Vladimir sur le trône, avec la complicité des boyards, fait empoisonner la tsarine. Et Yvan se retire alors dans un monastère. Mais le peuple rappelle Yvan. Et ça deviendra Yvan le Terrible. Voilà, qui va. Mais c'est vrai qu'il était terrible parce que il a quand même, pour pouvoir accéder au trône, il a quand même fait tuer pas mal de gens, mais en même temps, il a vraiment fait évoluer, c'est ce que je disais au début, la Russie, quoi. Vraiment, il a fait de grandes choses. Yvan le Terrible, c'est pour ça qu'on parle encore de lui d'ailleurs. Voilà. C'était 1h43, voilà, c'est beau, film soviétique, très très beau, du plus grand réalisateur connu, Eisenstein. Moi, je suis assez admirative de ce genre de personnage.
Et nous allons continuer, toujours dans les années 40, avec un film grand classique français qui s'appelle Quai des Orfèvres. Allô ?
Oui, ouais. Quai des Orfèvres, qui est sorti en octobre 1947. Et oui, c'est un film d'Henri-Georges Clouzot. Alors, Henri-Georges Clouzot, c'est pareil, hein, c'est vraiment c'est un grand réalisateur qui nous a quittés quand même assez tôt. Hein, il avait 69 ans en 1977. Il a eu beaucoup de prix, beaucoup de nominations. Et quand on lit des anecdotes sur ce réalisateur, on apprend que quand même il était très dur sur les tournages. Il pouvait même aller. Ça lui est arrivé.
Où c'est qu'il pouvait aller, on n'a pas entendu.
Hein, pardon ?
Où c'est qu'il pouvait aller parce qu'on n'a pas entendu.
Il pouvait aller jusqu'à gifler les acteurs.
Ah oui. Ah oui.
Ah oui, oui, il était très... Ah oui, oui. Non, mais il est connu, hein, il est connu pour ça. Il est connu. Quelqu'un de... Ouh, terrible, terrible, terrible sur un tournage. Ah oui, oui, il a fait pleurer des actrices, hein, et même des acteurs. Ah oui, oui, absolument. Ben, il les poussait jusqu'à ce qu'il lui donne, ce qu'il attendait, quoi. Il est poussé un maximum. Ah ben, c'était pas pour rien, hein. Il avait ses raisons, mais enfin bon... C'est pas non plus quelque chose à faire, hein. C'est pas très très chouette quand même, hein. Mais c'était pour arriver à une qualité d'interprétation. Pour lui, c'était ça. Donc dans Quai des Orfèvres, on a des acteurs, là il y a un joli casting aussi. Hein. On a Louis Jouvet, on a Suzy de Pelson, on a Françoise Rosé. Qui on a encore? Non, on a Bernard Blier, pardon, pas Michel Simon, hein, Bernard Blier. Je confonds les deux. Ils ne sont pas tout à fait pareils, mais bon, Bernard Blier, il y a Simone Renan, Suzy Dolaire, je l'avais dit, Louis Jouvet, voilà, dans les rôles principaux. Alors, c'est effectivement un film qui est très 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 célèbre hein, quand même, hein, qui est très très connu, qui a été restauré en 2017. Il était temps quand même qu'il soit repris comme ça. Il est repassé dans certains cinémas. 2017, et il a été restauré. Alors, c'est l'histoire de Jenny de l'amour, quel beau nom, chanteuse de musical douée qui ne manque pas d'ambition. C'est Suzy Levert, d'ailleurs, qui était une chanteuse, hein. C'était une actrice, mais chanteuse également. Donc, c'est vraiment elle qui chante dans le film. Parce qu'on a souvent des films comme ça avec des chanteurs ou des chanteuses et puis ils miment les chansons et ce sont des vrais chanteurs et chanteuses qui sont derrière. Mais là, non. Elle, c'est Suzy Delair, c'est vraiment sa voix. Donc elle, c'est une chanteuse qui ne manque pas d'ambition dans ce film. Elle accepte l'invitation à dîner de Brignon, qui est un homme riche et puissant qui peut l'aider dans sa carrière. Malgré l'opposition de Maurice, son époux, jaloux, chez Brignon pour découvrir son rival assassiné. Alors c'est Bernard Blier hein, qui joue l'époux de Jenny Lamour. Alors lui, c'est son pianiste en fait. Hein. C'est le pianiste de Jenny Lamour. Il l'accompagne au musical avec son piano. Alors c'est un film qui a été très nominé aussi, hein, beaucoup de prix, très nominé. C'est vraiment... Alors c'est pareil, moi je l'ai en DVD, je me le... Franchement, mes chéris, moi je me le repasse régulièrement parce que c'est tellement agréable ce genre de cinéma là. Ça coule. Donc là, il y a du drame, il y a du policier, ça finit bien quand même, je peux le dire. Je peux le dire parce que bon, ça date de 1947, maintenant on peut dire quand même un peu que ça finit bien. Si on peut dire. Pour les héros du film. Voilà. C'est vraiment... Oui, Clouseau, bah oui, bah voilà. Il fallait le dire parce que de toute façon, c'est pas un secret hein, que Clouseau était terrible sur les tournages. Hein. Absolument pas. Hein. C'est tout à fait connu. Il n'y a pas de... Là, je ne dévoile rien. Absolument rien. D'ailleurs, en 1955, il a sorti un film qui s'appelle Les Diaboliques. Très, très connu aussi. Vraiment un film terrible. C'est-à-dire, d'ailleurs, qu'au début du film, il y a une, on nous demande, il est demandé si vous avez vu le film et si vous connaissez des gens qui ne l'ont pas vu, ne leur donnez pas la fin du film, ne leur dites pas ce qui se passe à la fin du film, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on sait la vérité, on le regarde, on continue à le regarder, moi ça m'arrive de le regarder justement, mais on sait, donc c'est différent, on le regarde pour le plaisir de le regarder, quoi. Les Diaboliques, avec Simone Signoret, il y avait d'ailleurs Vera Clouseau qui est l'épouse d'Henri-Georges Clouseau à l'époque, et qui elle malheureusement décide à l'âge de 46 ans, en 1960, ouais, Lucie. Bon, elle, c'était 46 ans. Elle est morte, elle avait une maladie cardiaque. Hein. Elle est morte, elle est probablement morte d'un infarctus. Quoi. À l'époque, on parlait pas, ce terme-là n'existait pas trop, mais c'est probablement ça. Et il y avait Paul Meurice, par exemple. Il avait, et puis on lui doit quand même la vérité. En 1960, avec Brigitte Bardot, Charles Vanel et le beau Samy Frey. Il y a Paul Meurice également, d'ailleurs, dans La Vérité. Et oui, ben voilà, il savait faire ça, quand même. Hein. Bon, ben, maintenant, son attitude sur les tournages, à vrai dire, il a maltraité, entre guillemets, certains acteurs qui sont quand même revenus jouer pour lui. Qui ont quand même, voilà, hein. Il les tuait pas quand même, c'était pas non plus, c'était pas une grosse brute, hein. Mais c'était quelqu'un qui était comme ça, très, très dur, très difficile, sur les tournages. C'est une anecdote, mais qui est très très célèbre quand même, quand on parle de lui. Il y a même eu des documentaires sur lui, où on en parle, quoi, voilà. Quai des Orfèvres, 1h45.
Et maintenant, voilà, on va retrouver un film beaucoup plus récent, sorti en 2003, un film d'Antoine Decaune, qui s'appelle Monsieur oui. N.
Oui, Monsieur N. Et oui, on va parler de Monsieur N, qui est sorti en février 2003, oui. Il dure 2 heures, d'ailleurs. Mais c'est un film historique, c'est un film d'aventure. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de films hein, ont été tournés sur Napoléon, évidemment. Il y a eu énormément de films connus ou moins connus. C'est un personnage qui a inspiré énormément de réalisateurs. Et celui-là, moi, je l'ai trouvé assez extraordinaire. On a un Philippe Torreton dans le rôle de Napoléon qui est quand même étonnant. Étonnant, franchement. Mais vraiment, hein, moi, j'ai été fascinée. Absolument. Alors on a dans les... Ah oui, chez les Anglais aussi, là, le par exemple, qui le garde, un prisonnier, s'appelle, l'acteur s'appelle Richard Wigwent. On le connaît, c'est pareil, quand on voit. Et là, il a un rôle de type pas sympathique du tout. On a Elsa Silberstein, hein, j'ai toujours un peu de mal avec le Bernstein. Elsa Silberstein, qui est une comédienne extraordinaire, et qui joue le rôle d'Albine de Montholon dans ce film de Napoléon Bonaparte. Hein. Alors, en fait, le c'est comment l'empereur Napoléon a-t-il accepté de se soumettre à cet emprisonnement sur l'île de Sainte-Hélène ? Point d'interrogation. Et comment imagine-t-il desserrer l'emprise de ses geôliers ? Deuxième point d'interrogation. C'est ce que M. N va tenter de révéler. Il y a eu des nominations, hein, 5 je crois. Donc voilà, Mais Philippe Torreton, on sait que c'est un grand comédien. Bon, vraiment, bon, on le sait ça, on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement pointu dans son métier. Mais là vraiment, il nous donne un aperçu de Napoléon qui est assez extraordinaire. Ouais. C'est un film français et britannique. Hein. Oui, parce qu'il y a pas mal d'anglais qui jouent aussi. Et dont Richard Grant, là, qui est un gouverneur absolument odieux. Odieux, absolument. Et, ah oui. Ah oui, là, il avait un geôlier qui était épouvantable. Monsieur N. Alors on le connaît, Antoine de Caunes. Hein. Oh là là, qui ne connaît pas. Lui, par exemple, on lui doit, en 2008, il avait réalisé Coluche, l'histoire d'un mec. Avec François-Xavier Demaison, il y avait Léa Drucker et Olivier Gourmet aussi. Un joli petit casting. Là. Donc on lui doit ça. Et puis bon, c'est vrai que Antoine de Caunes est né dans une famille quand même de gens extrêmement tournés vers le spectacle quand même aussi. Hein. Son père c'était Georges de Caunes, journaliste qui avait fait parler de lui énormément quand il était parti vivre sur une île, tout ça. Et puis sa maman, c'était Jacqueline Joubert, qui était une animatrice télé, qui est devenue après directrice des programmes, voilà, qui était quelqu'un qui a beaucoup compté à la télévision. Et voilà, ils ont eu ce petit Antoine de Caunes qui lui-même a fait beaucoup de choses dans le cinéma. Ouais. Beaucoup de talent, Antoine de Caunes. Et son Napoléon N, franchement, Napoléon N, ça vaut la peine. Hein. C'est vraiment très, très, très chouette. Voilà, c'est ça que je voulais le mettre de côté.
Monsieur N, donc...
2 heures. Ça dure 2 heures. On s'accroche, hein, 2 heures, mais ça passe à une vitesse. On ne voit pas ces 2 heures, franchement. Franchement. Là, c'est vrai. Moi, il m'emballe tous ces films dont je parle là. Hein. Je suis emballée par tous ces merveilleux films. Voilà. Et oui. Ensuite.
Et on va retrouver un dernier film pour aujourd'hui. Donc, c'est un film également sorti récemment qui s'appelle Ma famille t'adore déjà.
Oui. Ah, bah c'est autre chose. Hein. Là, ça n'a rien à voir avec tous les autres. C'est chouette. Hein. C'est chouette, mais c'est tout à fait autre chose. Et effectivement, c'est beaucoup plus récent. C'est sorti en janvier 2016. Alors. C'est très, 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 très récent. Et alors, c'est un film de Jérôme Commandeur et Alain Corneau. C'est une co-réalisation de... Alors, Jérôme Commandeur, lui, c'est le réalisateur. Alain Corneau, c'est un assistant réalisateur et qui a d'ailleurs assisté sur des films extrêmement intéressants. Par exemple, il a assisté le réalisateur dans Je préfère qu'on reste amis, qui est sorti en 2005 avec Gérard Depardieu et Jean-Paul Rouve. Très chouette film, ça. Et puis, ah oui, il a assisté aussi le réalisateur de Les vacances du petit Nicolas, sorti en 2014 avec Valérie Lemercier, Cadmerade et le petit Matteo Boisselier. Petit qui doit maintenant être beaucoup plus grand, évidemment. Depuis 2014, c'est un jeune homme maintenant. Voilà, donc, et puis bon, bah, Jérôme Commandeur, on le connaît, évidemment, on le connaît, Jérôme Commandeur. On l'a beaucoup vu dans des émissions de télévision, pour ceux qui regardent un peu la télévision. Sinon, il a réalisé, là, en 2020, un film qui s'intitule Irréductible, qui devait sortir, mais qui ne sortira, lui, que le 8 décembre 2021. Eh oui, qui est repoussé, on en parlera probablement à l'antenne de Radio Entre Deux Mers. Mais voilà, eh oui, repoussé, on sait pourquoi, hein, je ne donne pas la raison, bien sûr. Avec des gens comme Gérard Darmon, Jérôme Commandeur lui-même dans le film, Laetitia Doche, Pascal Arbillot, enfin, joli casting de ce prochain film. Voilà, là pour l'instant, donc, ma famille t'adore déjà, c'est pas qu'elle t'aime, c'est qu'elle t'adore déjà. Alors c'est un film très drôle, hein. C'est une comédie. Il y a Déborah François, il y a Arthur Dupont, qui depuis 2016, a beaucoup tourné, Arthur Dupont. On l'a vu dans beaucoup de films, il a beaucoup de talent. On a Thierry Lhermitte aussi dans le film. On a Marianne Chazelle, pourquoi je dis Chazelle, moi? Non, c'est...
Mais c'est Claire Chazelle et Marianne Chazelle.
Bah oui, Chazelle, oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit quoi, Chazelle, je sais plus ce que j'ai dit. Voilà, donc c'est vraiment... c'est... On rit beaucoup. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film. Voilà, on rit énormément. C'est l'histoire de Julien, qui est un trentenaire, bonne patte et modeste. Il est créateur d'applications pour smartphone. Il est fou d'amour pour Eva, journaliste dans la presse professionnelle. Après avoir accepté la demande en mariage de Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents, qui résident sur l'île de Ré. Au cours d'un week-end de folles péripéties, Julien va faire exploser sa future belle-famille qui ne tenait que par des mensonges et des faux semblants. Alors Julien, ben c'est Arthur, Julien Dupont dont on vient de parler. Et Eva, c'est Déborah François. Et alors les parents, Marie Chazelle, qui sont dans un registre incroyable. Mais c'est vrai que on rit beaucoup. On rit beaucoup et pourtant Dieu sait qu'il y a des scènes quand même. C'est une famille qui se mentait beaucoup, voilà, qui tenait justement grâce à des mensonges et qui tout d'un coup va exploser. Hein, c'est lui. Julien, il ne va pas le faire exprès, mais c'est à cause de lui que ça va exploser. Et il y a des scènes quand même assez mémorables, je dois dire. Mais ça arrive dans un tas de familles, ça. Puis finalement, ça finit plutôt bien. Bon, voilà, une famille qui sous un... Je sais pas, il arrive un événement, un petit événement comme ça, qui se produit, et poum, qui fait exploser un petit peu la famille et qui fait apparaître quand même pas mal de compromissions, mais des compromissions un peu tordues quand même. C'est bien un compromis clair, mais quand c'est un peu tordu, ça devient un mensonge, carrément. C'est comme ça, hein, dans la vie. Voilà, bon, on a tous connu ça quand même. Hein. Voilà, donc je trouvais que ça valait le coup quand même. C'est drôle. Et c'est surtout bien joué, évidemment. Ce sont de grands comédiens quand même. Il n'y a pas de doute. Voilà. Ben, ça fait... On en est au 7e film, Damien, n'est-ce pas ?
C'est ça. On a notre liste de films pour la semaine. On va vous les rappeler. Donc, on a présenté Idiocratie, Drôle de drame, également Citizen Kane, Yvan le Terrible, Quai des Orfèvres, Monsieur N et Ma famille t'adore déjà. Voilà pour la sélection de Anne.
Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Et de bons films, mais voilà, pour tout le monde, pour famille, il y en a qui sont moins famille quand même, Citizen, un peu plus, Yvan le Terrible, c'est peut-être un petit peu plus hard, mais bon, tous les autres peuvent se regarder en famille. Idiocratie, franchement, comme je disais, c'est une comédie, mais ça fait quand même... Ça fait froid dans le dos quand même un peu,
oui,
finalement.
Ça fait froid dans le dos et ça fait réfléchir.
Espérons que ça n'arrivera pas. Le quotient intellectuel de nos contemporains, de la France et d'autres pays d'ailleurs, ne baissera pas suffisamment quand même, qu'elle restera toujours à un niveau acceptable. Voilà, et ben, en tout cas, bon, ben, la période de confinement continue pour l'instant, mais bon, quand même, on se prend en main un petit peu là, hein. On se prend en main, on reste joyeux, et puis Radio Entre-deux-Mers remercie beaucoup quand même, parce qu'on y pense tous, hein, les personnels de santé, les hôpitaux, tout ça, les ambulances, les aides à domicile, les vétérinaires, les personnes vétérinaires, parce que si on a des animaux et qu'ils sont malades, ben les vétérinaires sont là quand même. Hein. Ils prennent des précautions, bien sûr, les gestes barrières, les masques, les épiceries de village et de quartier. On a le personnel des grandes surfaces. Ben oui, il faut penser à eux quand. Il y a les caissiers qui travaillent avec des masques, qui sont les camions qui amènent des petites choses dans les épiceries et dans les grandes surfaces. Il y a les producteurs aussi qui continuent, les facteurs qui nous livrent nos paquets ou qui nous amènent notre courrier. Ils ont le courage, hein, ils sont masqués, ils le font. On a les éboueurs, on a les pompiers, le personnel de sécurité. Voilà, on a tous ceux aussi, on pense à tous ceux qui se dévouent pour les voisins, pour les SDF, pour quiconque a besoin d'aide. C'est important. Ces gens-là, on les remercie, on est très reconnaissants vis-à-vis d'eux. Et puis on a une pensée aussi pour les familles qui, encore cette fois, ont été séparées, parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, ils étaient loin les uns des autres et qui n'ont pas pu revenir dans l'immédiat. Même si le confinement est beaucoup plus souple que le premier, il y a quand même des règles, malheureusement. Il y a quand même des règles, c'est comme ça, à respecter. Et tout le monde n'a pas pu se retrouver au moment où ça a été où le confinement a été déclaré. Et puis, on pense aussi beaucoup quand même, dans les grandes villes surtout, aux gens qui sont confinés dans des petits appartements, qui peuvent être nombreux. Il peut y avoir plusieurs enfants dans deux ou trois pièces, même des fois un peu moins. Des étudiants aussi, qui sont dans la petite chambre là. Qui sont dans les chambres d'étudiants justement, et qui font très attention. Ils peuvent pas faire grand-chose. Puisque de toute façon les universités sont fermées, donc ils sont quand même là un peu confinés, voilà, donc on a une pensée pour eux quand même aussi. Mais oui, on a une pensée pour tous ceux qui souffrent de ce confinement justement. C'est sûr que dans le milieu rural c'est moins compliqué, on a peut-être plus de chance nous d'être là comme ça dans la petite province, dans les petites villes plutôt que les grandes villes. C'est peut-être plus facile, mais il faut quand même faire attention. Et oui, il faut quand même respecter les gestes barrières, il faut tout ça, quoi. Bon, voilà, même si on est à la campagne. Voilà. Donc, Radio Entre-deux-Mers vous souhaite, voilà, une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Damien vous souhaite une bonne semaine. Voilà.
Et on se retrouve mercredi prochain.
Portez-vous bien. Ouais. Et puis profitez du cinéma.
Silence.
Dieu, tu sais.